Je vous le rappelle, du lundi au vendredi, à cette même heure, à 16h, en temps universel, journal que vous pouvez aussi lire et écouter à cette adresse, françaisfacile.rfi.
Radio G. 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Aujourd'hui avec Nolwenn. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Je te laisserai le micro tout à l'heure pour nous parler du Flash Info, des actualités, mais aussi tout à l'heure en fin d'émission, on va aller du côté de la côte, très loin, de la côte atlantique.
C'est ça, on va aller à la Plaine-sur-Mer pour découvrir le festival du livre ancien et d'occasion.
Autour de 18h38 précisément, impatient d'en savoir un peu plus. Topette, la dernière de la semaine, et on va pas que aller du côté de la côte atlantique, on va rester par chez nous aussi, puisque on sera près de Loire-Authion, à Loire-Authion, la Loire qui déborde en ce moment. Alors on ne parlera pas tout à fait de ça, on va surtout parler de l'attitude, la course et rando qui aura lieu le 20 octobre à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et Christophe Pinault, élu en charge de la vie associative et sportive, qui était déjà avec nous le mois passé, est avec nous ce soir pour nous parler de cette sixième édition et du village d'animation qui l'accompagne, et aussi de l'euro reversé au don du sang. Voilà, il nous en dira un petit peu plus. Et puis toujours à Loire-Authion, sur la même section séquence d'interview, Maëlle Motouchet, qui est chargée de mission éducation artistique et culturelle et art visuel à Loire-Authion, nous parle, elle, du salon Routarts. Routarts, peut-être à l'anglaise, peut-être pas, elle nous dira ça tout à l'heure. C'est du 9 au 17 novembre et c'est sur toute la commune de Loire-Authion, puisqu'on sera à la Boale, à la Dagonière, à Bonnet et puis à Brun-sur-l'Authion. Les CSM aussi qui continuent, 8e épisode, il en restera un dernier la semaine prochaine, lundi prochain, et puis l'édito de Bruno. Bonsoir Bruno, qui va prendre ce soir?
Toi, comme d'habitude. On parle de télé-réalité ce soir.
D'accord, et bien impatient de découvrir ça également autour de 18h35, Topette. C'est parti pour la dernière de la semaine.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, donc un point sur l'actu avec toi Nolwenn. Nolwenn, on commence avec un homme sauvé de la noyade près du château à Angers.
Les secours ont été alertés peu avant 14h et c'est un riverain qui habite sur une péniche située sur le cal de la Savate qui est venu à son secours en kayak. L'homme âgé de 52 ans était en train de dériver au niveau de la guinguette du Héron Carré. Il a été conduit en légère hypothermie au CHU d'Angers.
Et ça gronde toujours justement du côté du CHU d'Angers, les services hospitaliers mécontents.
Ce mardi, ils ont fait irruption en plein comité social et économique pour interpeller la direction générale. En cause, le projet de réorganisation des ASH mené par le CHU. Ils étaient une soixantaine à s'être mobilisés. Les organisations syndicales pointent du doigt la suppression des postes liés au bio-nettoyage confiés à une société privée et donc la volonté de réduire les coûts. Ils réclament entre autres le retour à une organisation par équipe de soins et le maintien des effectifs d'ASH. Une nouvelle journée de grève sera organisée dans les prochains jours.
On avait mis beaucoup de temps à s'habituer à la circulation au niveau du rond-point de la statue du roi René qui n'est plus. La circulation va être de nouveau modifiée.
Lundi prochain, le socle et la grille de la statue vont être retirés. La circulation, elle, sera donc modifiée. Les véhicules ne pourront plus prendre les tournes à gauche, même en contournant l'emplacement de la statue. Une exception est faite lorsque l'on arrive de la gare. Il sera toujours possible de rejoindre la route qui mène aux voies sur berge. Ces modifications prendront fin après les vacances de la Toussaint le 4 novembre. Et autre information, à partir donc du 4 novembre et jusqu'en avril, la rue Toussaint sera en sens unique. Il ne sera plus possible de rentrer dans le centre.
Et ça va devenir de plus en plus compliqué de prendre la voiture dans ce secteur-là. On vous recommande le vélo. En tout cas, Nicolas de la chronique de Vélopédia vous le recommanderait vivement. Le vélo, pour aller jusque là-bas, ça va peut-être faire un petit peu loin, mais on va quand même y aller du côté de Loire-Authion qu'on accueille maintenant.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Maëlle.
Bonsoir.
Maëlle Motouchet, tu es chargée, alors précisément chargée de mission éducation artistique et culturelle et art visuel. Je leur dirai tout à l'heure, mais pas plus, parce que ça fait sacrément long. On va parler ensemble de Route Art dans quelques instants. On dit bien Route Art déjà pour...
Route Art.
Route Art, tout simplement, à la française. Notez déjà, c'est du 9 au 17 novembre. Mais avant tout ça, à Loire-Authion, il se passe autre chose pour les personnes un peu plus sportives, dirons-nous, puisque le 20 octobre précisément va se dérouler l'Attitude. Et avec nous pour en parler... Christophe Pinault. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Pierre.
Élu en charge de la vie associative et sportive à Loire-Authion. Donc cette course, elle propose déjà deux courses à pied et trois randonnées. On en parlait juste avant hors antenne, il y a eu des petites adaptations de dernière minute parce que ça déborde du côté de Loire-Authion. Bien évidemment, la Loire a absorbé toutes les pluies des jours et des semaines passées. On va aussi parler du village d'animation pour les petits et pour les grands et de 7 euros reversés au don du sang. Mais avant tout ça, parlons de dans les grandes lignes de ce qu'est l'Attitude, Christophe, cette course sportive.
Alors l'Attitude, c'est un événement sportif créé il y a 7 ans maintenant, puisque on est à la 6e édition, mais il y a eu l'année du Covid où il n'y a pas eu d'édition. C'est un événement qui avait pour but de fédérer les habitants de Loire-Authion, qui était une nouvelle commune, une jeune commune maintenant, pour faire découvrir le territoire au travers d'un événement sportif qui n'existait pas dans les communes déléguées à l'époque, et qui permettait justement de faire travailler les gens ensemble pour apprendre à se connaître, d'une part, et apprendre à connaître le territoire, qui est très varié, entre la Loire d'un côté, le parc régional Anjou-Touraine de l'autre. C'est vrai que c'est des territoires très riches en bois, en rivières, en milieu naturel, on va dire, et c'est vrai que c'est important de le faire découvrir à tout le monde.
Ouais, il y a la dimension nature aussi qui est importante dans cette course, bien évidemment. Alors c'est une course sportive, mais qui est accessible à tout le monde quand même. On a différents parcours, il y en a 3 pour la randonnée, 2 pour la course à pied. Tout le monde peut trouver son compte en fait.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire un événement sportif du type vraiment compétition, donc c'est vraiment pour le plaisir, le loisir. Donc effectivement, il y a des courses, deux courses à pied du 10 et du 18 km, mais plutôt entre route et chemin, c'est pas du trail, c'est pas de la course hors stade classique où on peut classer les gens, etc. C'est vraiment pour le plaisir de courir et de découvrir un territoire. Donc on espère que certains coureurs lèvent la tête quand même pour voir le patrimoine qui est autour d'eux. Mais c'est quand même le but du jeu, et les marches sont dans le même principe, c'est-à-dire que c'est vraiment des marches pour faire découvrir le territoire.
Oui, les marches n'ont pas de l'escalier, mais bien les trois parcours de randonnée, ils sont à combien de kilomètres eux?
Alors, il y a 3 kilomètres, on va dire, la petite marche familiale, pour faire découvrir aux familles et aux enfants le patrimoine bâti de Saint-Mathurin. Il y a une marche de 9 kilomètres, après, pour les marcheurs un petit peu débutants, on va dire, et puis 14 kilomètres pour les marcheurs quand même confirmés, sachant qu'on peut alterner entre 9 et 14, c'est-à-dire que si on part sur la 14 et qu'on sent qu'on est un peu fatigué, on peut couper pour récupérer la 9 et rentrer un peu plus tôt, voilà.
Ouais, on peut s'adapter, bon bah ça c'est pas trop mal. Les parcours en ce moment, ils sont justement aussi en train de s'adapter, juste d'un mot quand même, avec la Loire qui déborde, ça va, on a réussi à tenir les...
Alors c'est vrai que, comme tout le monde l'a constaté, depuis plusieurs semaines il pleut beaucoup, enfin il a plu beaucoup même tout l'été, et c'est vrai que la Loire est montée très 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 vite la semaine dernière. Alors on avait prévu des parcours sur les bords de Loire, en pied de levée, et puis dans le milieu naturel en bord de Loire. Malheureusement, c'est inondé à nouveau, donc on a dû modifier la semaine dernière les parcours. Donc on a trouvé des endroits différents, qui sont très sympathiques, entre autres, mais on sera un peu moins en bord de Loire que prévu. Mais voilà, c'est possible de courir en bord de Loire quand même.
Ouais, le territoire ne manque pas d'options, j'imagine, d'itinéraires de marche. Peut-être que d'ailleurs, tout au long de la saison, il y a des itinéraires qui sont proposés sur la commune.
Oui, il y a des itinéraires qui sont là toute l'année, donc ils sont répertoriés. Il faut aller sur le site de la commune pour les regarder et puis pouvoir les pratiquer tout au long de l'année. Il y a des fiches qui existent, qui sont disponibles à la Maison de Loire, à Saint-Mathurin. Donc n'hésitez pas à venir les télécharger, à venir les chercher éventuellement à la Maison de Loire. Il y a beaucoup, beaucoup de randonnées dans les bois, en bord de Loire et... Entre autres, pas que là, mais au bord de l'Authion aussi.
Au bord de l'Authion, oui. Loire-Authion, hein. Tout est dans le nom, j'ai envie de dire. Parlons quand même de... Il y a 1000 participants qui étaient attendus, en tout cas, l'année passée.
Au moment où on nous parle, il y a déjà 572 coureurs d'inscrits, à peu près. Donc on va arriver au 572, on va arriver à 700, je pense, avant dimanche. Entre 600 et 700. Et il y a souvent entre 500 et 600 marcheurs. Donc on va être 1200, je pense.
Ah, on va dépasser le record de l'an passé. C'est plutôt encourageant. Autre chose encourageante, c'est qu'il y a un peu pour la bonne cause, il y a 1 € de reversé au don du sang par inscription. Alors pourquoi? Comment ça s'est...
Alors, ça a toujours été un événement qu'on a souhaité, alors éco-responsable, comme on disait tout à l'heure, dans le milieu naturel. Donc on limite nos déchets au maximum. Donc on n'a pas de ravitaillement avec des produits emballés, etc. On limite vraiment les déchets. Et solidaire, on a toujours souhaité être solidaire d'une association. Donc c'est vrai qu'au tout début, sur Loire-Authion, on n'a pas beaucoup d'associations solidaires, mais il y en a au moins 2, le don du sang et le Téléthon. J'en profite pour faire un peu de publicité au Téléthon aussi en même temps. Une troisième vient de se créer, donc l'année prochaine, je pense qu'on sollicitera la troisième. Mais on a pour habitude de reverser 1 € sur chaque inscription, donc que ce soit les coureurs ou les marcheurs. Donc en gros, ce sera un petit chèque de 1100 €, 1150. On verra à la fin, mais ça, on le sait qu'à la fin. Voilà.
Oui, voilà. Les calculs sont rapides à faire. Plus il y a de monde, plus on multiplie par le nombre de participants, 1 €, et ça fait le don qui est donné, du coup, à l'association, en l'occurrence, le don du sang pour cette édition. Il y a un village d'animation aussi. Il est où? Qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Effectivement, c'est un événement qu'on a voulu un petit peu particulier par rapport aux courses qu'on peut trouver dans la région, puisqu'on a souhaité, Moi, je suis issu du marathon, donc on a souhaité faire comme un village comme au départ des marathons où on accueille les gens la veille. Donc toute la matinée, il y a de la musique, il y a une fanfare, il y a des jeux pour les enfants, il y a une garderie. On organise une garderie pour garder les enfants pour ceux ou celles qui aimeraient courir mais qui ne peuvent pas se libérer des enfants. Donc on a 2 agents de la commune qui se proposent de garder les enfants toute la matinée, le temps de la course ou de la marche. Et puis tout ça, c'est dans une bonne ambiance avec une association qui tient la buvette, puisque chaque année on fait tenir, c'est notre façon de soutenir le milieu associatif, donc on propose à une association de tenir la buvette, et tous les fonds sont propres. Et ben, tout ça, c'est dans une bonne ambiance. En plus, on annonce du soleil, donc faut en profiter. Il est assez rare en ce moment, donc venez le chercher à Saint-Mathurin, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça crée une ambiance sympathique avec un animateur à Ladouin, très connu dans la région. Et puis, ben, on est tous là pour s'amuser, prendre du plaisir. Et je pense que tout le monde le ressent et tout le monde le voit, quoi.
C'est presque la fête de village d'une certaine façon parmi les autres propositions et nombreuses qui existent sur Loire-Authion, puisqu'on ne cesse d'en parler chaque mois dans Topette. Christophe, tu restes avec nous, on donnera tout à l'heure en fin d'émission les infos pratiques pour savoir comment on peut aller s'inscrire par exemple.
Ou quelques déviations aussi. Enfin, voilà,
oui, peut-être aussi sur la route, tu fais bien d'en parler.
C'est important parce que on est en bord de Loire et donc il y a très peu de passages pour traverser la Loire. Donc
surtout que le pont a subi des modifications récemment.
Il y a des contraintes un peu particulières qu'il sera important de communiquer. Oui.
Eh ben, garde ça sous le coude et on en reparle tout à l'heure. Maëlle, d'un mot, tu vas y participer ou pas? Non, pas de course, pas de marche.
J'aurais une pensée très forte à tous les coureurs et les marcheurs.
Bon, Maëlle, on te redonne le micro dans quelques instants pour parler du salon Routard à la française. C'est du 9 au 17 novembre, mais avant tout ça, on fait un petit détour par le podcast des semaines d'information sur la santé mentale, épisode 8 sur la série de 9.
Bonjour à tous, je m'appelle Marie Saint-Val. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 dispositifs très différents, mais toujours liés à la mise en mouvement et à la santé mentale. Le DIASM, le premier, est un dispositif d'appui en santé mentale se situant dans les Hauts de Saint-Aubin. Elle est constituée d'une équipe pluridisciplinaire, donc composée de psychologues, infirmiers, psychiatres notamment, et intervient auprès de personnes de plus de 18 ans en situation précaire, d'exclusion ou souffrant de troubles psychiques. Les professionnels repèrent et identifient les troubles des accompagnés afin d'améliorer leur état psychique. Suite à cela, ils orientent les personnes vers d'autres institutions, comme les MDS ou les bailleurs sociaux, par exemple. Alors, que fait le DIASM concrètement? Il met en place des activités pour leurs usagers. Par exemple, en lien avec la mise en mouvement, 2 ateliers de danse différentes sont proposés. L'un correspond à 8 séances dans l'année d'ateliers de danse-thérapie pour des femmes en situation de précarité. L'autre est l'atelier de danse classique orientale égyptienne. Il correspond à une réponse positive du DIASM à un appel à projet. Ces ateliers sont menés par une professeure de danse, anciennement travailleuse sociale, qui a décidé, après avoir vu les effets bénéfiques sur ses collègues, d'ouvrir cet atelier de danse au grand public. Avons-nous attiré votre curiosité? Si oui, je vais vous expliquer le déroulement des séances, puis comment y adhérer. Ces ateliers se divisent en deux temps. Le public est d'abord invité à danser, puis un groupe de parole est proposé à la fin de l'atelier. Le temps est adapté selon les besoins de chacun. Ces ateliers sont accessibles sous orientation d'un professionnel de santé ou du social. Les places étant limitées, une inscription est nécessaire. Pour les plus sceptiques, laissez-moi essayer de vous convaincre une dernière fois en parlant de l'intérêt des ateliers de danse au-delà de la mise en mouvement et de l'activité physique. Cet atelier permet de trouver un échappatoire, de redécouvrir les sensations de son corps, faciliter les rencontres, accepter plus facilement l'image de son corps et travailler le regard des autres grâce au collectif. L'intérêt de celui-ci est de créer un lien social entre les participantes grâce à la bienveillance du groupe. Il permet aussi de valoriser l'estime de soi en se surpassant et en sortant de sa zone de confort. Les professionnels ayant orienté font aussi partie eux-mêmes de l'atelier. Ça permet de créer un lien différent, sans hiérarchisation, et créer une nouvelle relation d'aide, en sortant les deux personnes de sa zone de confort. Vous voyez, finalement, une activité physique n'est pas qu'une simple mise en mouvement, mais aussi un lieu de rencontre de soi, des autres, et un lieu d'échange. Si le diasme ne vous a pas convaincu, vous ne vous sentez pas concerné, ou s'il n'y a plus de place, pas de problème. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Je vais désormais vous parler d'une alternative demandant peu d'efforts physiques, mais du bonheur pour les yeux. Ceci correspond à une troupe de danse autofinancée proposée par l'ESAT Les Trois Paroisses. Avant de vous perdre, expliquons ce qu'est un ESAT. C'est un établissement de services et d'aide pour le travail pour personnes handicapées ne pouvant travailler dans un milieu ordinaire. Initialement, un ESAT propose des tâches telles que la blanchisserie, le ménage, le conditionnement pour la distribution et des travaux en espace vert. Grâce à l'association Adapay 49, association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés, qui est une association disponible sur beaucoup de départements en France et qui possède plusieurs ESAT, dont celui des Trois Paroisses, qui se situe au quartier de la Roseraie à Angers. La particularité de cet ESAT est qu'il a pour objectif d'offrir à des travailleurs handicapés la possibilité d'élargir l'activité professionnelle et favoriser l'épanouissement et le développement personnel suite aux demandes des employés de cet ESAT. Ce travail de création est une représentation de danse où les danseurs sur scène sont uniquement des adhérents de l'ESAT, donc personnes handicapées. Il n'y a dans cette troupe uniquement des professionnels, dont deux qui sont non handicapés. À l'heure actuelle, il y a au moins 8 représentations de 50 minutes par an, dont 4 sur Angers et la région et 4 pour des structures privées qui achètent le spectacle. Aujourd'hui, ils sont à la recherche d'autres structures afin d'aider à la diffusion de leurs pièces, Corpus Corum, et maintenir leur autofinancement. Pour résumer ce que je viens de dire, si vous souhaitez commencer ou reprendre une activité physique adaptée à vos problématiques psychiques, n'hésitez pas à parler du diasme à un professionnel du soin, tel que votre médecin, infirmier, kiné et autres, ou à un autre professionnel du social, tel qu'une assistante de service social par exemple. Autrement, si vous ne vous sentez pas et n'êtes pas concerné par le diasme, nous vous proposons d'assister aux représentations de danse proposées par le personnel de l'ESAT des Trois Paroisses ou de leur demander de faire une représentation dans votre structure professionnelle pour partager un moment ensemble, en équipe, voire même parler du handicap et diminuer les représentations à travers ce support qui est le spectacle de danse.
L'ensemble des podcasts des semaines d'information sur la santé mentale dont Topette et Radio G sont partenaires est à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
On reste à Loire-Authion pour un autre sujet. On va quitter le sport pour parler de culture plutôt et d'art visuel même avec toi, Maëlle Motouchet, chargée de mission éducation artistique et culturelle et art visuel sur la commune de Loire-Authion. Et ensemble, on parle donc du salon Routard du 9 au 17 novembre, le salon des pratiques amateurs et professionnelles sur l'ensemble des communes. Enfin, il en manque quelques-unes, mais quasiment sur toutes. En tout cas, c'est bien réparti puisqu'on sera à la Boale, à la Dagonnière, à Bonnet. Et à Brun, sur l'Authion, c'est annoncé aussi comme un salon pluridisciplinaire. Là aussi, c'est la 7e édition. Enfin, c'est peut-être il y a 8 ans, mais en tout cas, c'est la 7e édition. Déjà, un mot pour commencer sur son historique, parce qu'il y a une raison bien particulière au fait que ça existe là aussi, hein, Maëlle.
Effectivement, il y avait déjà sur Loire-Authion, avant que ça devienne commune déléguée, des salons organisés par des associations. Des salons qui allient pratique amateur et pratique professionnelle. Et il y a 7 ans, ces associations, accompagnées par la commune, ont choisi de se réunir sur une date commune et de créer un petit parcours, d'où le nom Routard. Donc le fait de s'assembler sur une période au mois de novembre pour que ces quatre salons vivent ensemble.
Oui, j'allais justement te poser la question sur le nom, donc Routard, parce que il y a le jeu de mots entre la route, une sorte d'itinéraire en fait qui permet d'aller voir différentes poses artistiques sur la commune, hein, c'est bien ça.
Exactement. Le public sera amené, notamment le premier week-end, à faire, s'il le souhaite, les quatre communes déléguées pour découvrir vraiment plus d'une centaine d'exposants.
Alors, autre singularité, ça mêle pratique amateur et professionnelle, c'est-à-dire ce sont des personnes issues du CRU exclusivement. Est-ce qu'on a autant de talents créatifs sur l'Orotion?
Pas tout à fait, mais on est plutôt sur des artistes effectivement du Grand Ouest, du Maine-et-Loire, avec une petite particularité pour le Salon de la Boale. Le Salon de la Boale réunit l'ensemble des habitants qui le souhaitent de la commune déléguée de la Boale pour créer ensemble sur 3 jours. Et sinon, on est sur des invités d'honneur, donc des artistes professionnels qui habitent le Maine-et-Loire et après des artistes amateurs qui viennent aussi du Maine-et-Loire et des départements limitrophes.
Alors, quelles disciplines sont concernées par ce salon Routard, puisque c'est annoncé comme pluridisciplinaire? Donc, dans les arts, on peut envisager un petit peu tout et n'importe quoi, j'allais dire. Ça peut être lumineux, ça peut être auditif. Généralement, ça mobilise nos sens. Là, est-ce qu'il y a une thématique qui a été délimitée pour cette 7e édition?
Alors, on est plutôt sur de l'art visuel, on est plutôt sur de la peinture, beaucoup de peinture, beaucoup de sculpture. On a, en termes d'invités d'honneur, on a 3 peintres et 2 sculpteurs. Et on a aussi de la photographie, on a d'autres créations aussi. On a de la sculpture sur bois, sur pierre, on a du métal. On a vraiment une grande, grande diversité d'artistes et d'univers artistiques représentés. Et c'est ça qui fait toute la richesse aussi de cet événement.
Et là, pour l'événement, justement, vous n'êtes pas impacté par la montée de la Loire, rassure-nous, Maëlle.
Non, nous sommes dans des salles. Nous sommes à l'intérieur, bien au chaud.
C'est bien hermétique. Si tu nous proposes un petit itinéraire là sur le, à la fois physiquement et temporellement, là, si on commence à monter en voiture avec toi et puis qu'on se déplace sur la commune, ça va commencer, tu disais, par la Boale, je crois.
On peut commencer par la Boale, effectivement. On part à la Boale, découvrir les habitants de la Boale. On continue, on reprend la voiture, on longe la Loire, on se dirige vers la Daguenière. La Daguenière, un salon qui est organisé par l'association Le Grand Bazar. Et à la Daguenière, nous avons 2 invités d'honneur. Nous avons Naël en peinture et Christophe Batardière en sculpture. Hop, on peut continuer en passant par Brun-sur-l'Authion. Brun-sur-l'Authion, nous avons 2 lieux, la Grange de l'Hôpital et la Salle des Fêtes, où on accueille la peintre Evelyne Gagnon. Donc à Brun-sur-l'Authion, c'est le Grand Bazar qui organise le salon et on poursuit jusqu'à Bonnet pour découvrir Sylvette Guillotot et Alain Sens, ces 2 artistes qui avaient gagné l'année dernière les prix à Bonnet, qui sont invités cette année en invité d'honneur.
Est-ce que ça marche du coup? Est-ce que l'objectif est atteint, d'avoir comme ça mélangé un petit peu, coordonné les différents salons qui existaient? Le public répond présent? Il y a justement, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il y a cette itinérance qui existe?
Oui. On note vraiment, les organisateurs des salons, les associations organisatrices notent vraiment une circulation du public. Et donc c'est ça aussi qui fait la richesse du lieu. On a aussi le public qui veut pousser un peu plus loin. Il peut aller jusqu'à Saint-Mathurin pour retrouver aussi deux galeries, la galerie Orchamps qui accueille Patrick Santoni, un peintre, pour son parcours Habiter demain. Et la galerie Guy Montis, qui accueille des artistes locaux.
On a besoin d'être initié ou pas à ces univers-là, ou on peut simplement, pour la beauté, pour la découverte, ça reste accessible à tout à chacun, tous les habitants?
Toute œuvre d'art me semble accessible à chacun, et effectivement, et là, ça donne vraiment, ça donne envie, effectivement. Ce parcours-là donne envie de découvrir, et effectivement, peut permettre à chacun de découvrir, redécouvrir aussi des univers artistiques.
Et si on élargit un petit peu sur le reste de la saison, sur le reste du territoire, là tu parlais de la galerie Orchamps, est-ce qu'on a d'autres temps forts un peu artistiques comme ça qui existent au cours de la saison ou au cours de l'année, ou d'autres lieux qui stigmatisent un petit peu, qui centralisent l'activité culturelle artistique loiretienne?
Alors, on a beaucoup de lieux qui accueillent de la pratique et de la découverte artistique. Effectivement, Routard, l'intérêt de Routard, c'est dans des lieux centraux de chaque commune déléguée. On est dans des salles polyvalentes qui accueillent une multitude de pratiques, notamment aussi des spectacles. On a, en termes d'art visuel, on a la galerie Orchamps, qui est une galerie municipale qui propose des artistes professionnels tout au long de la saison. Si on parle encore d'art visuel, on peut poursuivre avec le cinéma. On a, dans le cadre du circuit Balade Images avec Famille Rurale, on accueille 2 séances de cinéma par mois. Et c'est les bénévoles de l'association Ciné-Loire-Authion qui organisent les séances. Et ensuite, on a aussi la saison culturelle, effectivement, en itinérance également sur Loire-Authion. Et on a un très bon réseau, un super réseau de bibliothèques et médiathèques dans les sept bourgs.
Oui, ça ne manque pas. Du coup, l'offre culturelle et artistique est bien présente sur la commune. Et je suis prêt à parier, Maëlle, qu'il reste encore des choses à dire, 2-3 choses à propos de Routard, au moins les infos pratiques. Tu les gardes, pareil comme pour Christophe, bien au chaud. On les donne en fin d'émission dans quelques instants. On va juste faire un petit tour avant de partir sur la côte atlantique. On va suivre la Loire jusqu'au bout, quasiment. On va faire un petit tour par l'édito impro de Bruno. Et je sens que ça va être mon quart d'heure.
Producteur de Radio Rocher, c'est maintenant qu'arrive le plus beau de votre radio. Venez vous approcher, c'est le moment de l'édito de Bruno. De Bruno.
Ah, c'est à moi. Bon alors, Pierre-François, on a un problème. Hein, Pierre-Benoît. Ah oui, de toute façon, tes invités t'appellent jamais par le bon prénom, donc c'est pas bien grave. Puis c'est pas la question. Non. On a un problème. Enfin, plus précisément, j'ai un problème. La Star Academy a repris. Ah bah si, c'est un problème, si, parce que la quotidienne, c'est pendant Topette.
C'est pas grave ça.
Voilà, bah si, il faut que je fasse un choix. Alors j'ai bien demandé à TF1 de la décaler, ils ont bien voulu la mettre à 17h30, mais ça finit à 18h30, donc je rate 20 minutes de Topette. Alors il faudrait que tu mettes des trucs inintéressants au début, par exemple, comme la chronique de Raphaël, tu vois. De toute façon, tu passes déjà 5 minutes à dire le programme de la semaine suivante, alors tu peux bien commencer à 18h30 pour passer mes chroniques. Hein.
Je l'ai pas fait aujourd'hui.
Oui, mais tu les passes pas de toute façon. Ou alors, il faut que tu fasses de la télé-réalité pour attirer les spectateurs de la Starac en les transformant en auditeurs de la Radio G Academy. Hein? Oui, tiens, c'est ça. Faisons de la radio-réalité. Et on t'enferme avec Fahadi, l'animateur de G La Ref, et avec Julien, le programmateur de Radio G, dans un grand bâtiment, et on regarde comment ça se passe. Hein? Ça existe déjà? Ah, c'est où ça? Je veux voir le live. Ah, l'ARCOM a refusé, c'est trop violent. Bah, tu m'étonnes. Bon, écoute, comme on parle de radio-réalité, faisons-en une avec Rachida Dati, la ministre de la Culture, hein, avec tous les responsables des radios associatives de France. Ah, il va y avoir de l'ambiance, hein, je pense. Oui, parce que j'explique aux auditeurs, hein, ils sont pas au courant non plus. En fait, si Radio G, comme une centaine d'autres radios libres existent, c'est grâce à des subventions. Ça explique pourquoi on n'a pas de pub, par exemple. Alors, comme il faut faire des économies, eh bien là, le ministre veut réduire énormément les subventions. Autant dire que c'est la reine mort de beaucoup de radios, dont possiblement Radio G. Alors, c'est pas encore fait, mais autant dire que toutes les radios, hein, sont vent debout, hein. Alors, le gouvernement, les députés, les sénateurs ont montré l'exemple en disant qu'ils faisaient un gros effort en acceptant pas d'être augmentés. Ah ben, mais montrer l'exemple pour les autres, c'est plutôt baisser les budgets, hein. Ah, ils sont malins, quand même. Plus c'est gros, plus ça passe, comme disait Raphaël. Enfin, d'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez voir le crayon de Raph, hein, eh bien, c'est dans les podcasts plus du site de Radio G, hein. Alors, c'est pas un gros crayon, mais il s'en sert bien. Bon, alors, tout ça pour dire que demain, puisque je parlais de télé-réalité, vendredi 18 octobre, sort la série qui s'appelle Culte. Elle revient sur la création et la diffusion de la première télé-réalité d'enfermement française, Le Loft. Il y a 23 ans. Alors, c'est sur Prime Video. Eh oui. En tout cas, moi, je retourne dans mon jacuzzi avec Pierre Edouard. À dans 15 jours et surtout, sans rancune.
C'est la fin de l'édito. Pierre Benoît dit pas trop tôt. Vous pouvez remettre le volume. À bientôt et sans rancune.
Finalement, moi, ça va, c'est plutôt le pauvre Raph, hein, qui nous dit bon cher à chaque fois, le pauvre. L'édito de Bruno qui revient donc dans 2 semaines, sauf si c'est un jour férié, mais de tête, il ne me semble pas, donc tu seras bien de nouveau là. Effectivement, le FSR, je profite pour en rebondir sur les subventions dont tu parlais avec humour. C'est un sujet sérieux, on en reparlera lundi prochain dans l'émission Topette, et peut-être même qu'on fera des émissions communes avec les autres radios associatives du territoire pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Autre sujet, Nolwenn maintenant nous emmène sur la côte atlantique. Avec des livres.
Topette, avec Pierre Benoît.
Aujourd'hui, on est avec Stella Mouzin et Chloé Garcia. Vous faites toutes les deux partie d'une équipe étudiante de l'ESTUA qui a réalisé en partenariat avec l'association 9e Île, le festival du livre ancien et d'occasion. C'est un événement qui aura lieu à la Plaine-sur-Mer en Loire-Atlantique les samedis 19 et dimanche 20 octobre prochain. Bonsoir les filles.
Bonsoir. Bonsoir.
Donc dans votre exposition, dans votre festival, on pourra retrouver des librairies, dont certaines spécialisées, un espace lecture et dessin, des artistes, des expositions. Stella, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme de ce qu'on va pouvoir retrouver ?
Alors c'est vrai que ça va être un week-end très riche. On va avoir également des tables rondes sur la question du dialogue entre bande dessinée et littérature, puisque c'est ça le sujet de cette édition. Et puis ensuite, on aura également des conférences, des dédicaces, et puis effectivement deux expositions, dont une sur laquelle l'équipe étudiante a pu travailler.
Et donc c'est un festival qui va être axé sur la thématique de la littérature et de la bande dessinée, comme tu l'as rappelé. Pourquoi ce choix ? Quel est l'objectif ?
Alors l'objectif, c'était, je pense en fait pour l'association qui est également très passionnée de bande dessinée, de montrer les liens qui peuvent exister entre ces deux disciplines qui peut-être paraissent pas forcément évidents au premier abord. Et c'est vrai qu'en faisant l'exposition, on s'est aussi rendu compte que la bande dessinée, elle peut apporter beaucoup au livre ancien, en montrant, peut-être en le dépoussiérant un petit peu, en montrant tous les aspects modernes que peuvent avoir certaines histoires. Et puis que le livre ancien permet aussi de mettre en valeur la bande dessinée et puis tout ce qu'elle peut apporter à une histoire littéraire.
Il y a un lien bien plus fort que ce qu'on pense entre les deux types de littérature, c'est ça ?
Bah oui, c'est bien ça. C'est vrai que la bande dessinée peut-être doit encore faire ses preuves. En tout cas, c'est vrai qu'en matière de littérature, il y a encore un petit peu, dans certains domaines, des gens qui considèrent que la bande dessinée n'est pas vraiment une forme de littérature. Mais en fait, c'est aussi une façon d'illustrer, aussi de montrer parfois à la jeunesse, de simplifier des très belles histoires. Et du coup, on pense vraiment que ces deux disciplines, elles ont beaucoup de choses à apporter l'une à l'autre.
Et donc, on pense naturellement, un peu naïvement, que la bande dessinée, c'est plutôt à destination des jeunes et les livres anciens plutôt des personnes plus anciennes. C'est un festival qui est à destination de qui, Chloé ?
À vrai dire, c'est un festival qui se veut accessible et ouvert à tous. On a notamment travaillé sur un livret de médiation qui est du coup plus orienté vers un public jeune. Donc dans celui-ci, on a essayé d'adapter notre discours à des enfants ou des collégiens, notamment en proposant plusieurs activités qui pourront les aider à se déplacer dans le salon du livre et à prendre possession un peu des expositions qui seront à leur disposition pendant les deux jours du salon.
Et c'est un festival qui est tout de même assez loin d'Angers, c'est à la Plaine-sur-Mer, un département dans lequel le festival est déjà bien connu, j'ai cru comprendre. En quoi ça peut tout de même intéresser nos auditeurs ?
C'est vrai que le projet, il est assez novateur, le fait de lier comme ça bande dessinée et livre ancien. Effectivement, il y a des salons du livre, c'est quelque chose qui est assez répandu, mais là il y a vraiment cette volonté aussi d'indépendance au niveau de la programmation, au niveau des expositions, une grande exigence au niveau des conférences et des tables rondes. Et je pense que pour les passionnés tout autant de livres anciens que de bandes dessinées, ça peut être un salon vraiment vraiment intéressant.
C'est un festival qui n'existe pas vraiment ailleurs, en tout cas pas forcément dans le Maine-et-Loire.
Non, c'est vrai que cette idée de relier comme ça bande dessinée et livre ancien, il y a évidemment les festivals de la bande dessinée.
Et pour parler du coup...
Le festival d'Angoulême, oui, voilà.
Pardon. Pour parler plus précisément de l'exposition que vous allez organiser au sein du festival, une exposition donc qui se prénomme « Mes femmes et mes hommes de lettres », qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans cette exposition, Chloé ?
Dans cette exposition, on a essayé de travailler sur des livres qui retraceraient l'entièreté de l'histoire de la littérature. Donc on part avec une adaptation de l'Odyssée de Homère. On a notamment Jean Arambat qui sera présent pendant le Salon du Livre. et il va du coup présenter sa BD qui s'appelle Ulysse. Oui, c'est ça, Ulysse, les champs du retour. Oui, Ulysse, les champs du retour, exactement.
Et pourquoi ce choix de mettre en avant les femmes et les hommes au travers de bandes dessinées?
Parce que justement, notre volonté, c'était de montrer ce dialogue qu'il y a entre littérature ancienne et la bande dessinée. Et en fait, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte de la quantité de biographies en bande dessinée qui existent ou d'adaptations. Et on trouvait ça vraiment intéressant, en fait, de proposer un peu une double lecture peut-être à cette exposition où effectivement les personnes intéressées peuvent lire du George Sand ou du Tolstoy, mais si elles ont envie peut-être de découvrir des œuvres plus graphiques ou des versions plus condensées, peuvent aussi s'intéresser aux bandes dessinées et voir qu'est-ce que ces auteurs de bandes dessinées ont voulu montrer dans leur travail.
Alors vous réalisez cette exposition dans le cadre de vos études à l'ESTUA. Comment on s'organise pour préparer une exposition comme celle-ci?
Alors on s'organise... Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on avait créé des pôles de travail. Donc il y avait Chloé qui était au pôle médiation. On avait un pôle exposition où on était quatre. Et ensuite, eh ben, on a des heures de travail qui sont prévues dans les cours pour travailler tous ensemble. C'était aussi... quelque chose de formateur, parce que c'était la première exposition qu'on montait. Donc on a lu des livres sur comment monter une exposition. Et puis ensuite, on a travaillé aussi avec les conseils de l'association 9e île pour créer tous ensemble quelque chose qui pourrait plaire au public.
Et quel est l'objectif pour vous en tant qu'étudiante en organisant cette exposition? C'est d'acquérir de nouvelles compétences, telles-là?
Oui, c'est ça, acquérir de nouvelles compétences. C'est vrai que c'est un travail qui est long et puis avec beaucoup de choses à prendre en compte. On a fait toute la partie recherche, donc les recherches littéraires, les recherches scientifiques, la sélection des bandes dessinées. Tout le groupe a lu, je pense, ensemble une vingtaine de bandes dessinées. On a sélectionné celles qu'on voulait mettre dans l'exposition. Et puis ensuite, un petit peu la scénographie, donc quel panneau, combien de panneaux on va mettre en avant, s'il y aura des images, et puis voilà.
Merci beaucoup Stella et Chloé. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival?
Eh ben, je pense beaucoup de succès. Et puis, je pense que ce qu'on aimerait, c'est voir un public qui soit découvre la bande dessinée, soit s'ouvre au livre ancien. En tout cas, un public qui pourra découvrir tout ce que le festival a à offrir.
Merci beaucoup. Donc, on le rappelle, vous faites partie d'une équipe étudiante qui a réalisé en partenariat avec l'association 9e île, le festival du livre ancien et d'occasion. Ça se déroulera le 20 et 19 octobre à la Plaine-sur-Mer en Loire-Atlantique.
Topette avec Pierre Benoît.
Avant de conclure avec Loire-Authion, découvrons maintenant une autre association de la cause féline avec Choupi Matoudi.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. L'histoire peut commencer comme ça. Dans un placard, sous une table, dans un garage, un abri de jardin, une voiture, un carton, une cave, un buisson. Une maman chat, livrée elle-même, affamée, stressée, s'occupe de ses petits comme elle peut. Malgré le froid, la pluie, la faim, elle tente de les garder au chaud, leur fait la toilette, les allaite. Lorsqu'il voit le jour, le chaton a les yeux fermés et ses petites oreilles repliées. Il dépend totalement de sa maman, tant pour se nourrir que pour réguler sa température et prendre soin de lui. Mais voilà, il y a des mamans qui partent en quête de nourriture ou d'un endroit à l'abri, qui se font renverser par une voiture. Il y en a d'autres à qui l'on arrache les petits pour s'en débarrasser comme de vulgaires déchets, et d'autres encore qui sont malades et qui s'éteignent dans un coin, laissant leurs petits seuls. 100 grammes, c'est le poids d'un chaton naissant. J'ai eu l'incroyable chance de tenir un chaton né 12 heures plus tôt. Je n'ai toujours pas les mots pour décrire ce sentiment qui m'a envahi alors que je tenais là, dans ma main, cette petite boule de poils chiffonnée, terriblement, furieusement, pleinement vivante. Il y a des histoires de chatons qui commencent mal, mais grâce à de belles personnes, aux associations de protection féline, ces histoires peuvent avoir une belle fin. Aujourd'hui, pour parler de ces histoires félines, j'accueille Élise. Bonjour Élise, comment ça va?
Bonjour Lucie, ça va très bien et toi ?
Merci, ça va. Alors donc tu es là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui te relie au chat ? Qu'est-ce qui te lie au chat, ton parcours ?
Le chat et moi, c'est une longue histoire d'amour. J'en ai toujours eu à la maison et je suis devenue vétérinaire, donc je crois que ça en dit long aussi sur ma passion pour les animaux. Et en fait, il s'avère que depuis, j'ai eu mon diplôme et puis j'ai arrêté la pratique. Donc j'ai une activité autre que la pratique et j'ai voulu mettre mes compétences au service des chats, encore une fois. Et du coup, maintenant, je recueille des petits chatons.
Voilà, donc tu es famille d'accueil pour des petits chatons. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi, l'accueil, par exemple, comment ils arrivent chez toi, comment tu t'en occupes jour après jour?
Ouais, alors... en fait, déjà, il faut se dire que on est suivi par une association. Je suis pas toute seule à faire ça, donc je dis à l'association, voilà, là je suis disponible pour accueillir des chatons. Et en fait, à partir de là, c'est eux qui récupèrent les appels. Et en fait, il faut réagir au quart de tour parce que quand on te demande, on a 5 chatons, ils ont 3 jours. Est-ce que tu peux venir les chercher ? Faut y aller le jour même et lancer le processus, quoi.
C'est un peu le plan hors sec, là. Mais 3 jours, c'est très jeune. Du coup, comment ça se passe ? Parce qu'il faut vraiment un soin intensif.
Ouais. Donc, comme tu dis, ils font 100 grammes. Ils n'ont que 3 jours. Ils n'ont pas les yeux ouverts. Ils sont totalement dépendants, en fait. Donc, on a besoin de les biberonner avec du lait spécial pour les chatons, du lait maternisé. Et puis au début, c'est pas si évident de leur faire accepter un biberon parce que ils connaissent la tétine de leur maman qui est un peu différente quand même des tétines artificielles qu'on a. Donc, déjà là, c'est le premier challenge, réussir à les faire accepter le biberon. Et ensuite, en fonction de l'âge qu'ils ont, on compte leur âge en semaines. On a une fréquence de biberonnage. Donc, au début, la première semaine, c'est toutes les 2 heures, après toutes les 3 heures, et donc, ainsi de suite.
C'est un sacré engagement, quand même, hein, ça veut dire pas de nuit, ça veut dire une présence constante. Comment tu gères ça, toi, au quotidien, quand on te demande, en fait, d'être famille d'accueil?
Quand je dis que je suis disponible, c'est que je suis vraiment disponible avec l'asso. Voilà. Je sais que je m'y engage, donc je sais que je vais y passer du temps. Donc je me rends disponible dans les périodes où je peux l'assumer. Je suis aussi en télétravail, donc je peux m'arranger et m'organiser autrement dans ces périodes-là. Effectivement, c'est jour et nuit, donc c'est fatigant aussi. Et j'ai la chance de pouvoir ralentir le rythme à côté sur le travail et me plonger avec les chatons. J'en profite aussi, quoi.
Oui. Et donc, tu t'en occupes vraiment jour après jour. Ça dure combien de temps à peu près? Jusqu'à quel âge tu les gardes en famille?
Donc, notre rôle, c'est vraiment de les faire grandir jusqu'à ce qu'ils puissent être adoptés. Et avec l'association, on les garde jusqu'à 2 mois et demi. Et après, on lance les annonces au public pour essayer de leur trouver des adoptants. Donc, des fois, je les garde, oui, de 3 jours à 2 mois et demi.
D'accord, c'est quand même une sacrée période. Il y a un attachement qui se crée le jour du départ, en fait, vers leur famille définitive. Qu'est-ce que tu ressens?
C'est marrant parce qu'il y en a un qui est parti ce matin. Au début, c'était très, très difficile. Moi, j'ai commencé à faire ça l'année dernière. Et en fait, maintenant, avec l'expérience, ça va quand même mieux. Enfin, voilà, je prends une posture où je me dis vraiment, je suis un lien entre les avoir sortis de la rue et une nouvelle famille. Voilà, je suis un toit pour eux, mais pas éphémère, quoi. Et donc, ça reste un départ heureux, finalement. Quand ils partent, oui, je suis triste, j'ai les larmes aux yeux, mais en fait, c'est loin d'être triste. C'est toute la vie qui les attend devant, quoi.
Voilà, c'est ce que tu leur as permis de C'est ce à quoi tu leur as permis d'avoir accès, c'est une famille, une vie de famille, en dehors de la rue et en toute sécurité.
C'est
et
ça.
Ton association, ça s'appelle comment ?
C'est Sauvetage et Chat en Détresse, pardon. Et donc moi, je suis à Nantes. Ils ont un pôle nantais et un pôle aussi sur Angers.
D'accord, donc faut pas hésiter à consulter les annonces de Sauvetage et Chat en Détresse. Et bon, bah écoute, Élise, c'est la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ?
J'ai envie de rajouter que c'est une expérience super enrichissante de se sentir utile, en fait. Si vous aimez les animaux, vraiment pouvoir offrir un toit comme ça à un petit animal, c'est super, super gratifiant.
Merci beaucoup, Élise. Merci.
Topette prend fin pour cette émission de ce jeudi, mais aussi pour cette semaine totalement. Mais avant de se quitter, nous allons redonner la parole à nos invités du soir. Nous étions avec Christophe Pinault, élu en charge de la vie associative et sportive de Loire-Authion, qui vient toutes les semaines, tous les mois, non pas forcément Christophe, quoique, mais surtout la commune de Loire-Authion, puisque nous sommes partenaires avec Radio G et Topette, et on vous en remercie. D'ailleurs, nous, on a parlé de l'attitude, la course qui a lieu ce dimanche 20 octobre à Saint-Mathurin-sur-Loire. Christophe, tout à l'heure, tu voulais parler d'un point quand même très important, c'est la circulation qui va être un petit peu chamboulée pour les voitures.
Oui, alors, quelques informations pratiques quand même pour venir à Saint-Mathurin dimanche matin, pour les coureurs et les marcheurs. Le pont et la levée seront fermés à partir de 9h30, donc venez avant, sachant que le départ du 18 c'est à 9h30 et le départ du 10 à 10h, que les marcheurs c'est un départ libre de 8h à 10h, que Saint-Mathurin c'est très contraint en termes de parking aussi, donc venez un peu plus tôt s'il vous plaît, pour éviter de courir au dernier moment et puis de vous garer un peu n'importe où, qui pourrait gêner aussi les services d'urgence éventuellement derrière. Donc voilà, organisez-vous pour venir très tôt le matin. Le pont est bloqué, c'est très important, donc tous ceux qui viendraient du côté de Brissac, il faut faire le tour par Angers ou par Gênes-les-Rosiers, c'est plus facile, ou passer avant 9h30, voilà, enfin 9h.
Ou se garer du côté de Saint-Rémy et de franchir, par exemple, à pied.
Ça fait un petit peu loin à pied, mais...
Commencer la randonnée avant, quoi.
C'est ça. Mais venir un petit peu avant, puisque le pont sera fermé à 9h, et la levée aussi, voilà. Hein, c'est vraiment important.
Ça, c'est important. Les inscriptions, du coup, Christophe, ça se passe comment, là, si on a envie d'avoir son dossard, et puis de reverser un euro aussi pour
Les inscriptions sont en ligne jusqu'à samedi soir, pour tout ce qui est course. Il sera possible de s'inscrire sur place dimanche matin, à condition qu'il reste encore des dossards disponibles, puisqu'on limite à 700. Hein. Donc là, on est déjà aux alentours de 600, 610, ça augmente tout le temps. Donc dépêchez-vous de vous inscrire, parce que le soleil sera présent, et donc il faut en profiter. Pour les marcheurs, c'est une inscription sur place, automatiquement, il n'y a pas de réservation. Donc là, c'est illimité, mais on limite quand même les départs jusqu'à 10h. Puisque quand même 14 km en partant à 10h, voilà, donc ça fait 2h30 en gros.
Oui, parce que le village sera démonté à un moment donné dans l'après-midi, je pense, donc faut que tout le monde soit revenu.
On sera encore là, mais il y aura un peu moins d'animation, je pense.
Voilà. Et puis un petit clin d'œil peut-être aux 75 bénévoles qui s'activent activement.
Alors, avant de remercier tous les bénévoles, parce qu'ils sont très nombreux tout au long de l'année, et surtout ce week-end-là, les remises de dossards peuvent être retirées à Décathlon samedi après-midi. Donc pensez-y, ça évite de faire la queue le dimanche matin et puis ça permet d'être...
Décathlon Pont-de-Cé, j'imagine.
Décathlon Pont-de-Cé, pardon. Oui, pas à Saumur. Pont-de-Cé. Donc oui, si vous avez la possibilité d'aller à Décathlon Pont-de-Cé samedi après-midi, venez chercher vos dossards, ce sera beaucoup plus facile. Et puis oui, remercier les bénévoles sans qui on ne pourrait pas faire l'événement. Donc effectivement, alors il y a des bénévoles qui sont là tout au long de l'année, dès le mois de janvier, pour faire les repérages de courses, puisque chaque année on change et donc on repart à zéro. Et puis on va être entre 75 et 100 bénévoles sur le week-end, entre samedi et dimanche, ceux qui préparent les lots dès le vendredi, ceux qui balisent le samedi, et puis ceux qui vous accueilleront dimanche avec un grand sourire. Voilà, en gros, merci à eux déjà, pour la sécurité de tous, et puis pour le maintien de l'événement jusqu'à... Et on espère se revoir l'année prochaine.
Oui, sans aucun problème. De toute façon, Christophe, il reviendra le mois prochain. Le rendez-vous est déjà pris, j'imagine. Maëlle, avant de se quitter, pareil pour le salon Routard. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce qu'on doit réserver avant ? Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture à respecter dans les grandes lignes ? Ou est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos ?
Alors, il y a deux dates à retenir, le 9 et le 17 novembre. Et entre les deux, les salons sont ouverts les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h30. Et si vous voulez rencontrer les invités d'honneur, il y a les vernissages vendredi 8 novembre et samedi 9.
Eh bien, merci beaucoup Maëlle d'être venue également ce soir dans Topette, partenaire de Loire-Authion, les actualités loire-outiennes, c'est une fois par mois dans Topette. Voilà, vous pouvez réécouter les podcasts précédents si aussi vous voulez vous faire un avis de l'agitation qui a cours dans ce côté-là de l'agglomération angevine. Merci beaucoup. Au mois prochain, Bruno, à dans deux semaines, Nolwenn à lundi prochain. Non, c'est Yaël qui va revenir aussi pour le flash. Passe un bon week-end, Nolwenn, vous aussi, les auditeurs auditrices. Bonne soirée, à lundi.
C'est tout.